Sylvain Clapin, un vieux. Xavier Badenhôtre, sa lanterne à la main, rentra apparatif dans la chambre, puis s'approchant du lit, il poussa sa femme et lui soufflant à voix basse: Allô, Mélie, lève-toi, ça y est, le père a passé. D'un bond, la femme se dressa, et sur ses traits durs, encore tout bouffis de sommeil, se lisait, crut voir comme une flamme de joie. Le père, oui, que je te dis, le père a passé. Ben viens voir si tu veux. D'un bond, Mélie fut levée, puis elle suivit son homme jusque dans la pièce à côté, qui était la chambre de compagnie. En effet, Xavier avait dit vrai. Et le vieux père Padenoître, qui allait atteindre ses 82 ans à Pâques, était bien cette fois trépassé. Le vieillard était allongé, déjà rigide, sur de grands lits de merisier rouge, qui occupaient presque la moitié de la pièce, et sa face apaisée, aux yeux mi-clos, témoignait de la mort habituellement douce des vieux, dont la vie prend fuite dans un petit souffle. Xavier promena la lumière fade de la lanterne sur le visage de son père, puis il dit à sa femme: Ben oui, j'allais mettre une bûche dans le poêle et je m'en allais faire mon train quand j'ai pensé à venir voir le père. Le pauvre vieux a dû passer sur les minuits. Je vais soigner les animaux et pendant ce temps-là, tu prépareras tout ce qu'il faut. Mélie approuvait de la tête, ses yeux obstinément fixés sur la figure du mort. Et puis, continua Xavier, c'est demain, jour de Noël. Sans compter que nous allons avoir de la visite ce soir pour veiller le vieux père. Il en faudra des choses pour faire réveillonner tout ce monde-là. C'est une grosse dépense, mais comme on dit, on ne meurt qu'une fois. Mélie approuvait toujours sans dire mot. Elle rabattit le drap sur la tête du mort, puis tous deux, à pas menus, ils passèrent dans la cuisine où l'horloge venait de sonner 5 heures. C'est ben vrai, dit la femme, on ne meurt qu'une fois. Tout de même, comme tu dis, ça fait de la dépense. Xavier venait d'ouvrir la porte. Au dehors apparaissait la nuit, encore toute brasillante d'étoiles. Bientôt il disparut, se dirigeant vers les bâtiments où déjà de sourds beuglements se faisaient entendre. L'habitation des Patenaudes faisait face au grand rang près de la Sainte-Madeleine, et leur terre était une des plus considérables et des mieux tenues de la paroisse. Il faut dire aussi que, de père en fils, les Patenaudes n'avaient jamais boudé devant l'ouvrage, et que même la Mélie, comme on l'appelait communément aux environs, était aussi souvent au champ que son homme. donnant l'exemple de l'âpreté au gain, avec le seul souci de faire de son unique enfant, sa fille Catherine, le plus beau parti de Sainte-Madeleine. Restée seule après le départ de Xavier, Mélie roule une bonne commère, tout en boule et aux yeux perçants de furet, ne fut pas lente à la besogne. Ah, ce qu'elle l'avait désiré depuis longtemps, ce moment où l'on viendrait lui annoncer la mort du vieux. Quand on pense que depuis 17 ans déjà, qu'il s'était donné à rente à son mari, il s'obstinait à vivre en dépit du bon sens et à se prélasser dans la plus belle chambre de la maison, la fameuse chambre de compagnie, avec son lit monumental et ses belles catalogues des toutes neuves. Et avec ça, toutes sortes de manigances de notaires fourrés dans le contrat, tout le tralala, la vache qui ne meurt pas, le cochon raisonnable, et jusqu'à la cruche de Jamaïque de rigueur. Même depuis ces 3 jours où il s'était couché pour mourir, n'en ayant plus, disait-il, pour 2 heures, il était encore. Il avait trouvé le moyen de durer jusqu'à ce matin-là. À tout instant, on entrait le voir, on s'attendait à le trouver passé, et toujours la vie, ridiculement tenace, s'acharnait sur ce vieux corps. Ah non, vrai non! On n'en bâtissait plus de cette trempe-là. Heureusement que cette fois-ci, c'était fini. Et tout en monologuant de la sorte, l'Amélie vaquait rapidement à ses soins de ménage, ayant hâte de se mettre à sa grande tâche annuelle du temps des fêtes, ses beignets, qu'elle savait du reste confectionner un miracle. Sur ces entrefaites, le jour peu à peu avait lui, annonçant une radieuse matinée d'hiver. Et dans la lumière étincelante, au loin, le mont Saint-Hilaire se dressait comme un énorme bloc de granit bleu aux arêtes nettement tranchées. Cette année-là, les pluies diluviennes étaient venues vers la mi-décembre et avaient fait disparaître toute trace de neige. Puis le gel ayant suivi tout aussitôt, l'air était resté d'une fluidité admirable où se dessinaient les moindres détails du paysage. Sitôt son train fini, Xavier était parti pour annoncer aux voisins la nouvelle de la mort de son père. Cela fait, il rentra atteler son vieux cheval César, ayant décidé de pousser jusqu'à Saint-Hyacinthe pour y faire ses achats de Noël. La maison, maintenant, ne désemplissait plus, et ce fut jusqu'au soir un défilé ininterrompu des gens de la paroisse, venant rendre un dernier hommage, une dernière visite au père Pierre. En entrant, chacun allait s'agenouiller dans la chambre de compagnie où le vieux était exposé, vêtu de ses plus beaux habits du dimanche, d'office, d'étoffe, et juché là-haut, sur le monumental, comme sur un lit monumental, comme sur un catafalque. Et de chaque côté du cadavre brûlaient deux cierges bénis dans de grands flambeaux de cuivre doré. En sortant de là, les visiteurs faisaient bande à part, les femmes restant à causer dans la salle d'entrée, et les hommes passant plus loin dans la cuisine pour y fumer la pipe. À la Brumante, Xavier revint de la ville, apportant le petit whisky blanc si cher à nos bons habitants, et de son côté, Mélie alla chercher pour ces dames deux rations flacons de liqueur de cerise. Dans un coin de la salle, en permanence, s'étageaient des pyramides de beignets où chacun se servait à volonté. Dans la cuisine, le diapason des voix s'était élevé et les conversations inévitablement tournait à la politique. La fumée des pipes devenait suffocante et déjà à plusieurs reprises, on avait été obligé d'ouvrir la porte pour se donner un peu d'air respirable. Au dehors, le froid se faisait plus vif et la nuit de Noël venait rapidement, apparaissant comme celle de la veille, toute diamantée d'étoiles resplendissantes. À 10 heures, tout le grand rang était chez Xavier, et cela par familles entières, se rendant à Sainte-Madeleine pour la messe de minuit, et entrant en passant voir le père. Peu après, il y eut une accalmie dans le nombre de visiteurs. On récita encore un chapelet près du corps, puis Mélie, voyant qu'il ne venait plus personne, tira la porte de la chambre mortuaire et le vieux fut laissé seul, avec de nouveaux cierges rallumés pour sa nuit de Noël. Il en passerait encore une autre chez son fils, puis le lendemain, on devait le porter au cimetière. Vers les 11 heures, l'un des cavaliers de Catherine, qui était venu voir aux chevaux attachés çà et là devant la maison, rentra précipitamment en criant « Les clairons !» À l'instant, chacun fut dehors, les yeux levés vers le firmament où miroitait dans le bleu profond de la nuit une splendide aurore boréale. Les habitants de l'endroit appelaient cela les clairons, vieille expression pittoresque qu'ils devaient sans doute tenir d'un Arcadien ayant résidé autrefois dans la paroisse. On s'extasia et le père Jean Bellumeur, ami intime du défunt, murmura que c'était là les âmes des élus qui accouraient célébrer Noël. Leur clairon grandissait à vue d'œil, couvrant tout le ciel jusqu'au zénith Et c'est alors tout un fourmillement de lueurs vertes, jaunes ou rouges, se poursuivant, folâtrant, sans relâche. Et parfois encore, on lui dit que la voûte céleste se couvrait d'un immense voile de soie rose, aux mille cassures lumineuses. Puis tout cela disparaissait, ou plutôt se déchirait subitement, avec un petit claquement sec qui vibrait d'un horizon à l'autre. C'est pas tout ça, fit quelqu'un. N'aurait que le temps de filer pour la messe. En effet, il allait être bientôt minuit, et sans compter qu'on avait bien un bout de chemin à faire de 2 000 avant d'être rendu à l'église. Ce pauvre père Pierre, dit un autre, c'est bien la première fois qu'il aura manqué sa messe de minuit. On se bousculait, chacun désentravait son cheval, se disposant les pots de carriole dans sa voiture. Pierre, qu'est-ce qu'il leur prend comme ça dans la maison? S'écrièrent plusieurs à la fois, en avançant de quelque part vers quelque chose d'inaccoutumé qui se passait à l'intérieur. Des ombres couraient çà et là, derrière les vitres, comme effarés. Puis, de grands cris, la porte s'ouvrant en coup de vent, et l'Amélie se précipita, déboula plutôt dans les bras des arrivants, battant l'air de ses bras et n'ayant que la force de balbutier. Le père, mon Dieu, le père Pierre! De tous côtés, on accourait, mais sur le seuil, chacun resta bien vite cloué à sa place. Dans la grande salle d'entrée, le père Pierre, oui, le mort, le père Pierre, en personne, venait d'apparaître avec un grand air dans ses vêtements du dimanche, le teint frais, reposé, que dis-je, presque vermeil, se dirigeant vers la cuisine, où, dans l'entrebâillement de la porte, se tenait Xavier, parfaitement, complètement, positivement médusé, et l'œil tout rond d'épouvante. Dans un coin, quelques femmes s'écrasaient, pressées les unes contre les autres. Et ce fut bien pis encore quand on entendit le revenant qui, s'adressant à son fils, lui disait d'un air joli timbre autoritaire: Eh bien, Xavier, qu'est-ce que tu fais donc que t'attaches pas César pour la messe? Grand Saint-Jean, il parlait même d'atteler César. Ah oui, je lui pensais bien à César en ce moment. Et ce n'est pas tout. Avisant les beignets sur la table, le vieux, se rappelant sans doute qu'il n'avait pas mangé depuis longtemps, en grignota deux ou trois, tout en lampant avec une évidente satisfaction un brin de whisky resté jusqu'au fond d'un verre. Et ce fut Mélie qui résuma la situation et ramena une détente, en marmottant rageusement: Eh bien, Vous n'avez qu'à voir. Mais que s'était-il passé? Oh, c'était bien simple. Le vieux avait eu une syncope, avec tous les symptômes de mort apparente. Alors qu'on le croyait bien fini, il ne faisait qu'emmagasiner de nouveaux trésors de vie pour pouvoir durer encore plus longtemps. Il le prouva bien, du reste, car il ne mourut que l'été suivant, aux framboises, d'un effort contracté en aidant Xavier à remonter des foins, alors que, bizarrerie des choses d'ici-bas, Mélie était emportée, elle, dès la fin du même hiver, par une attaque de pneumonie aiguë. Ah. Ah non, vrai, on n'en bâtissait plus de cette trempe.